Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette troisième saison du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste AEF Info, l'agence de presse spécialisée qui coproduit ce podcast en partenariat avec la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Et j'ai le grand plaisir de retrouver à mes côtés Bernard Ramanantsou.
Bonjour.
Directeur honoraire d'HEC Paris, qui va me seconder dans la lourde tâche qui est la nôtre aujourd'hui, interviewer le président de l'Université Paris-Dauphine PSL, j'ai nommé Elmoub Mood. Bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour.
Alors, comme nous avons tous les trois des patronymes à rallonge, je vous propose de faire simple et de nous appeler par nos prénoms pendant ce podcast. Cher Elmoub, bienvenue d'abord au Studio Module. On
Merci.
A beaucoup de questions à vous poser en cette rentrée 2024, surtout que nous avons appris tout récemment que vous alliez probablement quitter cette institution à la fin de l'année, à la fin de votre premier mandat de président, donc, puisque vous avez annoncé vous porter candidat à la tête de l'Université Paris Sciences Lettres, PSL. Donc nous allons parler de tout ça dans un instant, mais d'abord, Dauphine. Dauphine, grande institution de l'Ouest parisien, université sélective, attractive, née autour des sciences des organisations, dont vous avez pris la présidence il y a 4 ans, Dauphine, c'est un peu une exception dans le paysage universitaire français. C'est un établissement hybride entre l'université et la grande école, avec les atouts des deux mondes, peut-être aussi les travers, je ne sais pas. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un portrait de l'univers concurrentiel de Dauphine aujourd'hui, quand les bacheliers font leur choix sur Parcoursup, avec qui ils vous mettent en concurrence ? HEC, les prépas, les bachelors ?
Avec qui ils nous mettent en concurrence ou... Qui mettons-nous en concurrence ?
Eux.
Non, non, mais je veux dire, la question c'est où se joue la concurrence ? Ce que nous observons, nous, à Dauphine, c'est que, des chiffres, hein, pour commencer, on avait 10 000 candidats en première année avant Parcoursup, on a 25 000 candidats. Et on a 900 places.
Ça, c'est la réussite de Parcoursup. Hein,
ça, c'est la réussite de Parcoursup.
Oui.
Je défends ça parce que ça permet d'augmenter, d'élargir le vivier de recrutement et d'élargir les profils en gardant en assumant totalement ce que nous sommes, une université sélective, ce que j'appelle d'excellence ouverte. Ça, c'est vraiment un premier atout. Donc, quels sont nos concurrents ? Ben, nos concurrents sont... Nous sommes aussi leurs concurrents. Ce sont les écoles de commerce, probablement, mais les classes préparatoires. On attire de plus en plus de gens qui ne vont pas dans les classes prépa, qui viennent suivre le cycle pluridisciplinaire de Dauphine, dès le début. La pédagogie en petits groupes... et plus le monde associatif et la vie étudiante de Dauphine. Donc c'est des atouts par rapport aux classes prépa, c'est des atouts par rapport aussi à certaines écoles de commerce, même si, de ce point de vue-là, Dauphine ressemble à ces écoles. Donc c'est aussi des étudiants internationaux, c'est aussi des places internationales qui sont nos concurrents.
Mais pour être précis sur qui sont les principaux concurrents, quels sont ceux qui vous empêchent de dormir ? On connaît la position très positive de Dauphine, mais quels sont les concurrents ?
Ça ne nous empêche pas de dormir.
Ça vous épate, Bernard ?
Oui, je...
Ça ne nous empêche pas de dormir parce que nous avons évolué au fil du temps, et je suis très heureux de ce résultat, d'une université sélective très forte en premier cycle, attractive, ce que nous sommes restés, ce que nous sommes aussi, ce que nous avons accru, hein, cette excellence reste ouverte, je reviendrai, mais reste forte. Cependant, auparavant, dans le passé lointain, je dirais, des étudiants pouvaient venir faire leur licence à Dauphine et ensuite se préparer pour aller à HEC, pour aller... aujourd'hui, on n'a plus ça. Les étudiants viennent, ils viennent à Dauphine pour 5 ans. Ils viennent pour suivre le cycle de mathématiques informatiques, MIDO, et décision organisation, ou pour le cycle LSO, licence de sciences des organisations, et la troisième licence que nous avons créée, qui est une double licence, intelligence artificielle et sciences des organisations, qu'on a créée en 2022. Ils viennent pour ça. Puis ensuite, ils ont tous les débouchés à Dauphine.
Non, mais je vais reposer ma question dans l'autre sens.
Pour pouvoir choisir à Dauphine. Donc, en fait, pour moi, la concurrence que nous subissions de la part de grandes écoles de commerce, ou même s'agissant des mathématiques de Polytechnique, ou d'autres au niveau du deuxième cycle... Elle a beaucoup diminué.
D'accord, voilà. J'entends. Mais alors maintenant, je pose la question à l'autre sens. Quels sont ceux que vous avez en ligne de mire et que vous aimeriez rattraper ? Quelles sont les institutions dont vous vous dites « j'aimerais bien que dans 5 ans, on soit à ce niveau-là » ?
En termes de quoi ? En termes de...
En termes de profs, en termes de qualité des étudiants.
Oui, de qualité des étudiants, je crois qu'on est vraiment bon. Je disais, à l'international, on a des universités, des étudiants qui se présentent à McGill, qui se présentent à la LSI, qui se présentent dans des... à l'international. C'est plutôt nos concurrents, je dirais. Voilà, c'est les concurrents internationaux. Donc, s'il fallait ressembler à quelqu'un en termes d'aménité, c'est-à-dire d'offres de services spatiaux, de confort, de toute une série de choses que peuvent offrir les universités américaines ou les universités britanniques, moi, j'irais volontiers vers la LSI, j'irais volontiers vers des universités
de ce type. Une question un peu frontal. Bon, en gros, vous nous dites que vous êtes au top et que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est un top dans l'absolu, mais c'est...
Ça nous oblige à faire des progrès encore, beaucoup.
Mais vous êtes peu dans les rankings, en particulier les rankings des business schools, vous n'êtes pas, ou depuis longtemps, vous n'êtes plus dans le FT, par exemple. Vous devriez en profiter, non ?
Non, on ne souhaite pas être dans les classements nationaux. On a eu des débats là-dessus. Enfin,
le FT est vraiment international.
Oui, mais très, très gestion. Ce que nous souhaitons, c'est suivre la logique de la construction de Dauphine depuis 10 ans, d'être un membre fondateur de PSL, d'être une composante clé dans PSL et de connecter nos compétences en matière de formation et de recherche avec les autres établissements de PSL et donc de contribuer aux classements internationaux qui rejaillissent sur les diplômes de Dauphine. Et puis, aux reconnaissances. On est la seule université labellisée EQUIS. Qui est une labellisation européenne.
Il y a les IAE quand même.
Ouais, les IAE, je parle d'université voilà, globale, compréhensive, comme disent les anglo-saxons.
Juste sur les classements, effectivement, Dauphine était dans le FT jusqu'en 2019. Oui. Vous avez disparu à partir de 2020. Et dans les grands classements internationaux, je parle notamment du Shanghai, vous y étiez aussi en 2019, puis vous êtes passé sous le label PSL. Donc, en termes de marque... Dauphine a disparu, que ce soit du FT ou du Shanghai. Si, en termes de marque, elle n'y est plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu là de la destruction de valeur ?
Non, pas du tout. C'est la multiplication des marques de PSL et des marques de Dauphine. Parce que quand vous êtes classé 33e dans le classement de Shanghai, grâce à PSL, les classements ils sont aussi décomposés par disciplines. Et les disciplines sont fortement représentatives des établissements.
Mais justement, dans les sous-disciplines de Shanghai, vous n'y êtes pas non plus en tant que Dauphine.
Ça apparaît, Dauphine, dans certains domaines, par exemple la gestion, il n'y a que Dauphine qui fait de la gestion.
Pas dans le Shanghai.
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on ait un classement dans les 10 premiers mondiaux, et comme tous nos diplômes sont des diplômes PSL, que l'on marie la marque Dauphine à celle de PSL, la marque des mines à celle de PSL, ou la marque de l'ENS à celle de PSL, ça garde la multiplication des marques. L'externalité positive de la marque PSL et de son classement international très bon rejaillit sur les diplômes de Dauphine, sur les diplômes de l'ENS, sur les diplômes de tous les composants de PSL, puisque tous nos diplômes sont...
Tamponné
PSL. Voilà.
Alors justement...
Mais juste une question, pourquoi vous ne rajoutez pas, pour les classements de gestion, que ce soit Shanghai ou l'EFT, pourquoi vous ne rajoutez pas, comme d'autres le font, Dauphine ? C'est-à-dire on verrait, je ne sais pas, 10e PSL / Dauphine ?
Oui, c'est un choix qui est possible. Ce n'est pas celui que nous avons fait avec les collègues de gestion de notre département recherche management. Et c'est, ils ont préféré jouer la carte de l'université compréhensive globale plutôt que d'apparaître uniquement sur des questions sur les classements de gestion. Encore une fois, on n'en a pas besoin vraiment pour attirer des meilleurs étudiants. Voilà. Et d'ailleurs, Dauphine demeure un grand établissement en matière de production de doctorants en gestion, mais c'est peut-être une autre question.
Oui.
Ah ben, c'est une très bonne transition. Alors, est-ce que sur le doctorat, ça va bien ? Parce que quand même, si je suis bien informé, en 2023, vous avez eu un petit problème, il y avait plus de candidats ou très peu de candidats, notamment pour des contrats doctoraux, ce qui est quand même un peu inquiétant quand on est Dauphine, non ?
Il n'y avait pas très peu de candidats, il y avait une diminution du nombre de candidats par rapport à une période de pic qui était celle 2021-2022. Au total, sur l'ensemble de Dauphine, on avait 97 doctorants en 2021-2022, et ce chiffre est retombé à 70. Alors là-dedans, vous pouvez... Avant, on était à 71 en 2019-2020. Donc on a eu un pic d'une année qu'on ne s'explique pas très bien. Ce qu'on sait aussi, c'est que nous avons resserré le dispositif des doctorants partout sur les doctorants financés. Et donc, probablement qu'il y a eu de l'attrition, hein, de la diminution liée au fait que nous avons...
Ma question portait sur les candidats avec des contrats doctoraux, justement. Donc, normalement, c'est des gens qui sont financés. Et quand j'ai regardé les chiffres pour préparer cette interview, c'est un peu bizarre que des gens n'aient pas envie d'être financés par Dauphine, dont on connaît la réputation.
Oui, parce que, ce que je vous dis, il y a eu un pic sur une année, mais en fait, nous avons repris... Si vous regardez les chiffres, hein, je les ai, nous avons repris notre période de croisière, qui est d'avoir environ 70 étudiants.
Comme ça, c'est sur l'ensemble.
Si je prends la gestion, franchement, il y a eu une diminution, effectivement, là, du nombre de candidats doctorants en gestion. Mais ça correspond aussi à un climat qui est un climat qui n'est pas dauphinois, qui est un climat général dans lequel les étudiants s'engagent moins à faire des thèses aujourd'hui, depuis la crise Covid. Mmh. Là, on ressent très nettement l'effet de la crise Covid dans les choix professionnels des étudiants. Il se trouve, pardonnez-moi, mais nos étudiants ont un taux d'insertion professionnelle très bon. 96% des étudiants qui sortent de Master 2 trouvent un emploi en 2 semaines en moyenne. En 4 grandes écoles, hein, c'est pas moi qui l'invente. Et à des taux de rémunération supérieurs à la moyenne des grandes écoles, là aussi en 4 grandes écoles. Le choix est simple. Depuis la crise Covid, les étudiants, à part ceux qui ont choisi un track académique dès le M1 en suivant notre programme gradué, par exemple, ils ont eu plus de choix professionnels, arbitrage loisirs professionnels. Vous savez, ils ont beaucoup plus d'intérêt à la qualité du travail. Et ils n'ont pas forcément envie de s'engager sur une thèse de 4 ans, de 3 ans. Mais ce n'est pas seulement chez nous qu'on observe ça.
Ça veut dire, est-ce que vous allez pouvoir rester la pépinière, la pouponnière de professeurs de gestion que vous avez toujours été ?
Exactement, puisque ce mouvement est un mouvement symétrique qui concerne toutes les universités. Ce mouvement de réduction relative, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas quand même des chutes absolues, de nombre de candidats dans les filières de gestion en doctorat. Bon, ce n'est pas quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, relativement aux autres, on demeure une université qui produit de la gestion, du management, en formation master, comme en formation doctorale, et comme en enseignant académique, et comme en professionnel.
Là aussi, c'est une bonne transition sur les profs. Aujourd'hui, le corps professoral... Alors, je reste sur la gestion, puisque c'est normalement le thème de l'interview. Qu'est-ce que vous pensez du nombre et de la qualité des profs de gestion de Dauphine ? Ça monte, ça progresse, ça descend, c'est un risque, c'est...
Moi, je trouve que la qualité des enseignants-chercheurs en général à l'Université Paris-Dauphine s'est accrue considérablement. D'abord, nous avons augmenté le nombre de candidats à l'international, internationaux, et en gestion particulièrement, en finance par exemple, nous ne recrutons que sur le job market international. Voilà. Et nous avons mis, d'ailleurs, moi j'ai mis en place, ça c'est un élément de réflexion plus générale sur la politique universitaire, car je considère qu'on est dans une situation où la compétition salariale demeure de plus en plus exacerbée dans les domaines de la finance, dans les domaines de l'intelligence artificielle, dans les domaines de l'économie aussi, qui sont des domaines importants à Dauphine, et même en mathématiques ça commence, vraiment. Et donc, si on ne met pas en place des mécanismes d'incitation à attirer des enseignants-chercheurs ou des chercheurs internationaux, on peut avoir quelques difficultés. Donc, oui, il y a une augmentation très nette de la qualité de nos enseignants-chercheurs.
Vous avez des nobilisables aujourd'hui. Enfin, alors, en gestion, ça n'existe pas, mais quelles sont les stars aujourd'hui dont le rayonnement est international?
Il y a des stars un peu partout. Il y en a en économie, il y en a en intelligence artificielle, premier porteur de avec Prairie, avec l'Institut IA et Société qu'on a créé avec l'ENS, dans PSL. En intelligence artificielle, je pense que nous avons des stars internationales. En mathématiques, nous avons une tradition. Dauphine est très connue pour la gestion, mais ses forces ancestrales, si je puis dire, en termes de réputation mondiale, c'est les mathématiques. C'est pour ça qu'on parle de sciences des organisations et de la décision.
Mais
il faut ajouter ça.
Et de la
parce
décision.
Parce qu'on a les maths de la décision, l'informatique de la décision.
Vos étudiants, quand ils viennent en premier cycle à Dauphine, c'est parce qu'ils vous repèrent sur un marché quand même qui est celui le marché concurrentiel des business schools, de Sciences Po. C'est pour ça qu'ils viennent chez vous. Est-ce que l'impact de PSL, c'est pas aussi de modifier un peu le barycentre de Dauphine vers ces disciplines-là, vers l'IA, vers les mathématiques, vers les sciences de la donnée ?
Non, parce que précisément, on a une stratégie de bidisciplinarité de la licence au doctorat. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre ça. Parce qu'on combine les disciplines. Quand on crée l'intelligence, la double licence IA, on est les premiers à le faire en 2022, la double licence IA Management, sciences des organisations, On a cette idée que les blocs de compétences de Dauphine doivent être combinés, continuent à être combinés. Alors que l'IA soit transversale à tout, c'est absolument la vie aujourd'hui, sociale et économique. Que les problématiques de transition écologique soient transversales à la finance, transversales à l'économie, transversales aux mathématiques, c'est partout.
Donc vous suivez les besoins.
On a les recrutements que nous faisons ex nihilo d'enseignants-chercheurs, nous les mettons sur ces disciplines, ces transdisciplinarités. On a recruté une juriste du climat. On a recruté quelqu'un qui fait des data, un spécialiste des sciences des données et qui est à la lisière des sciences sociales. Donc c'est ça notre logique, c'est que finalement les blocs de compétences de Dauphine qui contribuent à ce bloc qu'on appelle les sciences de la décision et des organisations ou des organisations de la décision continuent à être fécondés par nos disciplines. Il faut les approfondir, les disciplines. Si on n'approfondit pas les disciplines, on n'est pas capable de faire de la bidisciplinarité.
Alors je sais que la bidisciplinarité c'est l'un de vos dadas. Ça fait partie de votre bilan à Dauphine et il est temps de le faire ce bilan parce que ben voilà, vous allez peut-être quitter cette institution. Vous avez annoncé que vous alliez briguer la présidence de PSL. En juillet encore, vous disiez que ça ne faisait pas partie de vos plans. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous avez changé d'avis?
Bon, écoutez, c'est simple. Quand je suis arrivé à la présidence de Dauphine, mon slogan était « PSL, c'est nous ». J'ai ajouté « c'est nous tous » avec l'arrivée des deux écoles d'art, l'École supérieure des arts décoratifs et l'École Malaquais d'architecture, qui sont en voie d'être intégrées totalement. Mm-hmm. Donc PSL, c'est nous. Moi, je ne conçois pas la construction de Dauphine sans sa contribution à PSL et inversement. Donc au fond, pour moi, c'est juste de la continuité avec ce que nous avons commencé à faire. PSL, c'est nous. Et si je peux contribuer après 4 ans de travail quand même acharné à Dauphine, à aussi construire PSL, et d'ailleurs je ne vais pas rentrer dans mon projet pour PSL, parce que j'espère être en compétition avec d'autres, et je réserve mon projet au Search Committee, qui est susceptible de recruter les candidats à la présidence, bon, voilà. Donc, il y a pas de... Franchement, c'est pas une révolution, hein, c'est pas une bifurcation de trajectoire. Hein. Je vais pas dans une école de commerce, je vais pas dans une...
Ce serait pas une grande bifurcation, si?
Non, ce serait un scoop, là,
mais on me l'a proposé, déjà.
Alors, si on reste sur ce bilan, voilà. C'est la question qui me paraît majeure. Comment va le budget de Dauphine aujourd'hui? Parce que, quand même, on est dans un environnement difficile, surtout quand... Enfin bon, je vous écoute sur le budget.
Écoutez, je ne peux pas ne pas, pardon pour la double négation, ne pas aborder la question du budget aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les universités, bien ça sûr. A été dit par la ministre Sylvie Retailleau sortante dans ses recommandations lors de la passation de pouvoir à laquelle je n'étais pas, puisque j'étais à Dauphine pour la minute de silence, en la mémoire de notre étudiante philippine. Donc nous avons un problème majeur, c'est que la réduction du budget lié à la subvention de l'État, la subvention pour charges de service public, c'est une diminution chaque année en termes réels. Puisque là, on va reconduire le budget de 2024, on a des problématiques sur la marche de la LPR que vous connaissez très bien. Donc on a des risques majeurs sur la poursuite de l'impact de l'université qui est PSL et Dauphine, et l'ENS et toutes nos universités, dans la société, et toutes les universités d'ailleurs françaises. Et si on n'a pas des ressources propres, je pense qu'on a des problématiques s'agissant des dotations par étudiant. Ce qui est la force de Dauphine, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça tombe pas du ciel, j'arrête pas de l'expliquer à nos tutelles, hein. C'est pas parce qu'on va chercher c'est pas parce que la moitié de nos ressources, à peu près 48% sont des ressources propres, que il faut nous dire, vous vous débrouillez bien, vous avez 48% de ressources
et
propres.
Et comment elles se décomposent, ces ressources propres?
Alors, je peux vous les donner. Sur ces ressources propres, voilà, j'ai 25% de formation continue. On est le premier département universitaire, je ne parle pas des grandes écoles de commerce, de formation continue. Et on a une grande stratégie sur la formation continue pour la localiser à la Défense, augmenter nos aménités et valoriser davantage notre formation continue. Ça, c'est 28%. On a la formation par apprentissage qui représente 25% de nos ressources propres. On a les droits d'inscription progressifs, progressistes, comme je n'aime le dire, entre 0 et 10 000 euros, plafonné à 10 000 euros, 9 500 euros en master, c'est quand même pas bon. Pour les revenus les plus élevés, 150 000 euros et plus, 140 000 euros et plus. De 0 à 9 500, 20% et 13% recherche.
Et ça, ça a augmenté pendant votre mandat?
Voilà.
Ça...
La proportion est stable, on était à 45% de ressources propres, on est passé à 48%. Voilà. Bon, donc c'est pas, je vais pas me dire que c'est... J'ai l'air dans les... épaisseur du trait, c'est une stabilité de dauphine, c'est une stratégie que nous avons toujours privilégiée, que mes prédécesseurs ont construite, que la fondation Dauphine vient aussi appuyer, voilà, et puis vous avez aussi des taxes d'apprentissage, et puis autres, 4%, voilà. Donc, j'insiste, c'est l'économiste aussi qui parle de temps en temps, ces ressources propres sont un effet de levier, doivent être considérées par l'État et par notre tutelle comme un effet de levier et non pas comme un effet de substitution à la subvention. Voilà, parce qu'ils ont, il y a quand même une tendance à se dire bon, bah, une université qui se débrouille par elle-même, on la laisse faire, etc. Voilà. Et ça, juste un dernier point, puisque vous m'avez abordé sur les ressources propres. Les ressources propres, c'est fondamental. Et l'État devrait investir dans les endroits où il y a des ressources propres parce que ça rend plus efficace l'investissement des public. Mais ça nous permet de multiplier par deux notre dotation par étudiant. Elle est deux fois plus grande que ce qu'elle serait en coût complet. Hein, là, on compte Anna. Elle est deux fois plus élevée que ce qu'elle serait si on dépendait uniquement de la subvention pour charges de service public.
On va arriver au bout de l'interview. Moi, je brûle de vous poser une question. C'est quoi le profil idéal de votre successeur ?
À Dauphine ?
Oui, bien sûr. Oui, ou ailleurs, je ne sais pas, mais...
Quelqu'un qui, je l'espère, appartient à ma liste demain Dauphine, avec un programme qu'il faut encore consolider. Je suis très content de notre bilan. On a fait à peu près les deux tiers de ce que, ou 80% de ce qu'on avait annoncé, sans parler du nouveau campus, sans parler des chocs à gérer, etc. Et j'aimerais que la personne soit à la fois très soucieuse de la recherche, parce que c'est avec la recherche qu'on fait de l'innovation, et c'est avec la recherche qu'on fait de la bonne formation par la recherche et qui permet d'avoir les bons résultats en matière d'insertion professionnelle. On n'aurait pas ces résultats d'insertion professionnelle très bons si on n'avait pas derrière de la recherche. Et c'est ça qui nous fait innover aussi dans les disciplines, dans les formations que nous donnons en formation continue comme en formation initiale.
El Mahmoud, on arrive à la fin de ce podcast déjà. On n'a pas posé la moitié des questions qu'on voulait vous poser, mais je vais quand même vous poser...
C'est pas parce que j'ai beaucoup parlé.
Non. Je vais quand même vous poser la question rituelle de fin du grand oral, qui nous permet un peu d'ouvrir nos chakras vers d'autres horizons. C'est votre conseil de lecture. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous proposer ?
J'avais complètement oublié, mais m'est revenu à l'esprit quand vous me l'aviez redemandé tout à l'heure. Un livre que j'ai lu il y a déjà une quinzaine d'années, qui m'a vraiment marqué, qui était l'un des meilleurs livres que j'ai lu, c'est un livre de J.M. Coetzee, prix Nobel de littérature sud-africain, qui s'appelle « Disgrâce », et qui est une merveilleuse description à travers une expérience individuelle, qui est assez classique, l'histoire d'un professeur d'université qui a des difficultés dans une université, etc. Et puis ça se transforme en une analyse collective de l'Afrique du Sud post-apartheid. Et on comprend beaucoup comment fonctionne cette société post-apartheid avec toutes ses difficultés grâce à ce livre, ce roman qui s'appelle Disgrâce,
que je recommande. C'est ça que vous allez faire dans l'autobiographie qui nous est annoncée par le Figaro récemment.
Exactement, c'est pas une autobiographie, c'est une esquisse d'auto-histoire qui permet de comprendre comment dans la trajectoire individuelle qui est la mienne, mais qui est tellement ressemble à tellement d'autres, c'est tellement peu exceptionnel que j'aimerais essayer de comprendre et de faire comprendre comment l'émigration ne commence pas, l'histoire de l'émigration ne commence pas avec l'arrivée, mais que tout ce qui vient avant, dans les trajectoires des individus, leur société, leur histoire, les contextes aussi historiques, vont compter et ne sont pas suffisamment pris en compte par les sociétés d'accueil. Voilà, c'est ça,
c'est
un peu l'idée.
C'est pour quand ce livre ?
Bon, écoutez, quand je trouverai un peu de temps pour le finaliser, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus.
2025.
Voilà, j'espère.
Merci beaucoup, El Mahmoud, président de Dauphine, de vous être prêté au jeu de ce grand oral. Merci à mon coéquipier de luxe, cher Bernard Ramanantsou. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité et d'ici là, portez-vous bien.